Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit!
Ah, Pinglet, Pinglet! Vous m'avez perdu!
Mais non, je ne vous ai pas perdu! Après tout, notre cas n'est pas bien grave! Ce n'est pas parce que nous avons été surpris dans un hôtel tous les deux. Nous ne sommes pas des vagabonds!
Pascal Paradou.
Une nuit de quiproquo, de rendez-vous raté, d'amour escamoté, d'infidélité fantasmée dans l'hôtel du libre-échange le bien nommé. Voilà le vaudeville le plus célèbre de Georges Feydeau, créé le 5 décembre 1894 au Théâtre des Nouveautés à Paris et plus d'un siècle plus tard par Stanislas Nordet au Théâtre de l'Odéon. Bonjour Stanislas Nordet.
Bonjour.
Ce sont des retrouvailles avec Feydeau. Je crois que vous avez monté la puce à l'oreille il y a 20 ans.
C'est ça, c'est des retrouvailles. Il me manquait un peu, même si c'est un sacré bougre et que c'est pas facile à faire, mais passionnant. C'est beaucoup de travail. Pendant les répétitions, on rit pas du tout. C'est dur à faire. C'est une mécanique de précision incroyable. Donc, voilà, c'est comme... c'est au moment où le public arrive qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas trop mal travaillé.
Mais alors, après avoir mis en scène beaucoup d'auteurs et d'autrices contemporaines, d'autrices d'ailleurs, ces derniers temps, Léonora Miano, Marine Diaille, Claudine Galéa, Christine Angot, pourquoi revenir au vaudeville si en plus vous me dites que ce n'est pas facile et que ce n'est pas du tout par un désir de légèreté?
Ben justement, parce qu'à chaque fois que je décide de faire un projet, j'essaye de me mettre en danger, en difficulté, pour ne pas m'endormir en fait. Donc, quand je venais de faire effectivement des textes assez noir, assez costaud, et le dernier c'était Christine Angot, le voyage dans l'Est, et j'avais envie aussi de renouer avec la troupe, c'est-à-dire ces 14 personnes au plateau. C'est une écriture, contrairement à ce qu'on peut penser, qui est très fine, qui est très aiguë, l'écriture de Feydeau, et j'avais envie de ça. C'est un très bon exercice pour le metteur en scène de se confronter à des espèces de structures implacables comme ça, qui vous obligent à travailler différemment, à revenir à la compréhension de la narration d'une histoire. Feydeau, c'est aussi un formidable raconteur d'histoires. Avant de faire rire, il raconte des histoires, et particulièrement dans les grandes pièces en trois actes, comme l'hôtel du Libre-Échange.
Oui, des histoires de bourgeoisie, essentiellement. Donc, à l'époque, la création, c'était des pièces pour moquer et divertir le bourgeois en même temps, en tout cas celui qui allait au théâtre. Est-ce que c'est encore le cas ?
Alors à l'époque, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire c'est à la fois ça, mais il faut jamais oublier que Feydeau, c'est juste avant Alfred Jarry, c'est à quelques années près, c'est Ubu Roy, donc c'est quand même un endroit qui grince. C'est pas simplement une chose qui se moque de la bourgeoisie, ça va au tréfond de l'âme humaine, c'est un torturé, Feydeau. Donc c'est quelqu'un qui parle toujours de la panne sexuelle, par exemple. Il y a toujours au début l'histoire de couple qui veulent passer à l'acte et puis ça ne marche jamais. Il y a toujours une catastrophe qui fixe. Donc, il y a quelque chose de plus angoissé derrière qui, moi, m'intéresse. Et puis, un vertige dans la façon dont les situations se mettent en jeu. Donc, je ne me suis pas dit, je vais monter Feydeau pour faire rire ou je ne sais pas quoi. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de vertigineux que j'avais déjà ressenti quand j'avais fait la puce à l'oreille il y a 20 ans qui me plaisait. Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on le sort de son cadre un peu vieillot, on va dire, esthétiquement.
Oui, donc il n'y a pas de critique de la bourgeoisie pour vous, dans Feydeau?
Il y a en tout cas une critique de l'âme humaine et de la masculinité toxique.
Oui, c'est
aussi
hyper misogyne. Hyper misogyne.
Et en même temps, les personnages féminins sont Marcel qui mène l'affaire, en tout cas. C'est elle qui mène le truc et qui va dire à son pinglet de présupposé amant que non, ça ne va pas aller jusqu'au bout, qu'elle ne passera pas à l'acte. Donc il y a en même temps quelque chose... Qui raconte le rôle puissant du désir. Et le désir féminin, il est quand même roi, c'est lui qui mène la danse.
On raconte Stanislas Nordet, ou plutôt vous me racontez l'histoire, puisque vous dites que Feydeau, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Moi, personnellement, je pourrais un peu me mélanger entre les uns et les autres, les histoires de couple, ceux qui couchent et ceux qui ne couchent pas.
Je vais le faire simple. Monsieur Pinglet a un gros désir sexuel, Madame Pinglet, pas du tout. Madame Paillardin a un gros désir affaires sexuelles, Monsieur Paillardin, pas du tout. Donc Monsieur Pinglet et Madame Paillardin vont essayer de passer à l'acte et à la suite d'une série de quiproquos vont se retrouver à l'hôtel du libre-échange, comme vous le disiez, le bien nommé, dans lequel tous les personnages de la pièce, la femme de chambre, le neveu, tout le monde va s'y retrouver évidemment. Voilà, il s'agit de ça. C'est Phédos, qu'est-ce qu'il fait ? Il noue un certain nombre de fils dans les deux premiers actes qui semblent inextricables. On se dit ça ne va pas se dénouer. Et puis, ça se dénoue in extremis. J'aime bien dire que Phédos adorait écrire le premier et le deuxième acte. Et c'est une torture pour lui d'écrire le troisième acte parce qu'il disait « Je me suis tellement... j'ai lâché la bride de l'imaginaire dans les deux premiers actes. Comment revenir à quelque chose de raisonnable ? Comment finir la pièce ?» Il était toujours très triste de finir ses pièces. Elles finissent en général, d'ailleurs, à la toute fin, un peu en eau de boudin.
Oui, avec une morale...
Il bâcle un tout petit peu rapidement les fins.
Avec une morale qui est sauve quand même.
Toujours, mais...
On est au 19e
siècle. Ça l'ennuyait quand même. Mmh. Ça l'ennuyait que la morale soit sauve. Hein.
Stanislas Nordet de Phédos et du théâtre en général, on va poursuivre cette conversation, mais je vous propose d'abord de découvrir le fruit d'une belle rencontre entre deux artistes vivant au Canada, mais d'origine différente, Pierre Kwenders et Pierre Lapointe, Claire de Lune.
L'amour ne meurt jamais sur le dance floor.
Trop piquant, c'est le monde à l'envers, le ciel, l'univers. Quand les lois de la physique se font méphistophéliques, Seigneur suprême de l'Olympe, Marie, Madeleine, nos saintes. Nassambeli, Nabeleli, Bakoko, Bayoka. Nassambeli, Nassengi, Bolingo, Selioko, Bolingo, Wana, Bolingo, Angonde, Yoé.
T'en souvient-il? Nous voguions en silence. On entendait au loin sur l'onde et sous les cieux que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence. Tes flots harmonieux. Par-delà les constellations, les trous noirs et les voies lactées, surgit le fruit de la passion. Nous sommes là pour célébrer. Viens, viens et suscite de ton glaive venu la langue pure de la tribu. À genoux devant la pépite, serviteur zélé d'Aphrodite, viens, viens, sévice d'Eurydice, on refait.
En français et en lingala, le nouveau titre de Pierre Kwenders et Pierre Lapointe sur RFI. Aujourd'hui, le metteur en scène Stanislas Nordet est notre invité pour l'hôtel du libre-échange de Phédos. Mais vous concernant, Stanislas Nordet, dire metteur en scène ne suffit pas tout à fait parce que vous êtes aussi acteur. Vous avez dirigé le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, plus récemment le théâtre national de Strasbourg et vous allez même prendre cet été la direction de la maison d'édition Espace 34. Quel appétit ! Quelle énergie !
C'était quoi les 101 Dalmatiens ? Le truc, c'était marqué « Quand on aime, on ne compte pas ». Voilà, ben c'est ça, c'est-à-dire quand on aime, voilà, tout vous intéresse. Et puis je crois que je suis quelqu'un qui, plus large, au-delà des étiquettes, j'aime le théâtre, j'aime la littérature dramatique. Et donc l'enjeu, c'est j'enseigne aussi, c'est comment, d'une manière ou d'une autre, on transmet. C'est une question de transmission qu'on transmette en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène, en tant qu'éditeur, en tant que prof. Donc voilà, au cœur de mon travail, il y a ça. Et particulièrement, on va dire que Phédos, c'est un petit écart, les écritures contemporaines qui m'ont toujours passionné. Voilà, parce qu'elles parlent d'aujourd'hui, parce qu'elles racontent des histoires qu'on n'aurait pas racontées hier, parce que elles sont un reflet de la société. Et voilà, c'est ce qui m'émeut, moi, quand je vais au théâtre, en tout cas, c'est d'entendre voilà, le bruit du monde autour de moi aujourd'hui.
Est-ce que votre vie est différente quand vous êtes acteur dans la pièce d'un autre ou metteur en scène?
Ça n'a rien à voir. La vie d'acteur, c'est une vie de patachon pour moi. C'est-à-dire, on est en tournée, on joue le soir, on se repose l'après-midi dans la chambre d'hôtel. La vie de metteur en scène, c'est une vie, comment dire, un peu, c'est dur. Hein, la vie de metteur en scène, qu'est-ce qu'on fait? On répète, on crée les lumières, les décors, on va parler à RFI du spectacle. On a toutes les casquettes. Et c'est pas du tout la même chose.
C'est plus angoissant.
Il y a plus de responsabilités, on va dire en général, quand on est metteur en scène, parce qu'on est à la tête d'une équipe qui est large. Et alors, c'est une autre responsabilité. Quand on est sur le plateau de théâtre en tant qu'acteur, on a la responsabilité du présent, de l'instant où tout d'un coup, si on n'est pas à l'endroit juste, à cette heure juste, voilà, le spectacle s'écroule. Donc, il y a un endroit où on est surexposé, qui est l'endroit de l'acteur. Et le metteur en scène, il est finalement dans l'ombre, mais il tire un peu toutes les ficelles.
Dans un livre d'entretien intitulé « Locataire de la parole », il y a deux tomes, le deuxième vient de sortir, Frédéric Vosier dit que pour vous suivre ou pour faire votre portrait, il faut utiliser des verbes d'action. Créer, jouer, diriger, programmer, produire, lire, enseigner, observer, partager, pleurer, etc., dit-il. Il manque un verbe ?
Rêver. Je ne sais pas, je ne me souviens jamais de mes rêves. Dormir. Pour faire tout ça, il faut bien dormir. Je suis un dormeur, je suis un grand dormeur.
Et rêver donc, parce que quand on dort, on rêve un peu, même si on ne s'en souvient pas le lendemain matin.
Absolument. En tout cas, que l'espace de l'imaginaire soit toujours ouvert.
Il dit aussi, Frédéric Vosier, que vous êtes un bricoleur et que d'année en année, vous avez abandonné une part de votre radicalité que vous aviez quand vous aviez 30 ans, 40 ans. C'est vrai ?
Je suis quelqu'un qui a toujours été en colère. On parlait des jeunes gens en colère dans les années 60, Pinter, Osborne, tout ça, toute cette génération d'auteurs. J'ai toujours été en colère. Je le suis toujours, on va dire, sur les questions de société, sur un certain nombre de choses. Dans mon travail d'artiste, dans mon travail de directeur, j'ai essayé, on va dire, de la canaliser. La colère, d'en faire quelque chose qui puisse ne pas exclure. Parce que parfois, quand on est en colère, on ne fait pas attention, on renverse des trucs autour de soi. Donc je renverse peut-être un peu moins de choses autour de moi. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de m'être calmé parce que les colères, elles sont toujours là, elles sont simplement canalisées.
Mais mettre en scène Feydeau, est-ce que c'est être moins radical ?
Je me suis posé la question, évidemment, quand j'ai décidé de monter Feydeau. Non, j'ai pas l'impression. C'est comment on fait un pas de côté de temps en temps pour revenir à l'essentiel aussi. C'est-à-dire que, je vais pas vous mentir, dans Feydeau, dans l'Hôtel du Libre-Échange, il n'y a pas un propos politique et pas un propos poétique fort comme je le fais d'habitude, mais je dirais finalement pour moi le propos politique en montant Feydeau, c'était de dire il est encore possible sur les scènes de théâtre en France de monter des spectacles où il y a 14 comédiens, où il y a 3 décors, où il y a 50 costumes, dans le théâtre public, dans un moment où on est vraiment dans une très très grosse difficulté dans le théâtre public. Donc je vais dire que l'acte politique, entre guillemets, c'était ça, c'était d'assumer qu'il était encore possible de travailler dans des bonnes conditions, en payant tout le monde normalement, etc.
Et ce qui n'a pas changé dans votre passion pour le théâtre depuis le début, c'est que vous aimez les acteurs et vous aimez l'idée de la troupe.
Oui.
Et vous l'avez déjà dit deux fois, 14 comédiens sur le plateau, c'est exceptionnel, on voit presque plus ça sur les scènes parisiennes.
Bah oui, et sur les scènes pas seulement parisiennes, dans toute la France, puisqu'on va tourner à la rentrée un peu dans toute la France. Mais non, c'est simplement aussi l'histoire de la troupe, c'est voilà, on a tous en tête, je sais pas, Molière, d'Ariane Mnouchkine, l'aventure de Mnouchkine et tout ça. C'est l'imaginaire collectif qu'on a du théâtre, elle est quand même liée à la troupe. Elle est ce moment où au salut, il y a beaucoup de le monde sur le plateau. Et aujourd'hui, dans les mauvais vents qui entourent le ministère de la Culture, on est dans des réductions drastiques, et particulièrement pour les équipes émergentes et pour les petites compagnies. Et on voit de plus en plus, ça peut être formidable, un spectacle, un seul en scène, etc. Mais il ne faut pas qu'il n'y ait que ça. Et aujourd'hui, le danger, c'est évidemment qu'on se dirige vers ça.
14 comédiens donc sur la scène du théâtre de l'Odéon pour rentrer dans cet hôtel du libre-échange au 220 rue de Provence. Je crois que c'est un hôtel qui a existé, ou à peu près, hein, parce que c'est du côté de l'Opéra. Il y avait pas mal de maisons closes.
Alors lui-même, Feydeau, vivait à l'hôtel. Hein, donc la question de l'hôtel, il paraît même qu'à la fin de sa vie, il fréquentait de très près les grooms, sans en dire plus. Donc il avait un rapport à l'hôtel très particulier. On ne sait pas, le 220 rue de Provence n'existe pas, mais l'hôtel du Libre-Échange, c'est comme tous les hôtels de passe qui existaient à l'époque. Oui, c'était quand même un lieu où, voilà, c'était des lieux repérés.
Bienvenue donc à l'hôtel du Libre-Échange.
Ça fait 15 ans que je suis à l'hôtel du Libre-Échange. Ah, j'en ai vu. Ah, j'en ai vu. Estaba ahorrando. Tengo 15 mil francos guardados. Ahí los tengo guardaditos en el banco. Mucho dinero, mucho dinero. ¡Fuego, fuego!
Hola, monsieur.
Eh bien, qu'est-ce que vous avez donc, monsieur Boulot? Vous avez l'air tout bouleversé.
Ah, monsieur Bastien, si vous saviez ce que je viens de voir, ce n'est pas ma faute, cependant, j'avais frappé, comme vous m'avez dit qu'il fallait toujours le faire.
Eh bien, quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Le 32 avait sonné, monsieur Bastien. J'ai frappé à la porte, on m'a répondu « Entrez !» Je suis entré, il y avait une dame toute nue.
Eh bien, après?
Eh bien, je vous dis, une dame toute nue. Monsieur Bastien est là, nue de nue.
Eh bien, j'entends bien.
Et elle m'a dit « Garçon, apportez-moi les cartes à jouer. » Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place?
Eh bien, je lui aurais apporté les cartes à jouer.
Toutes nues?
Mesdames!
Et vous trouvez ça nature?
Oh, voilà mon ami. Oh. Je te vois.
Comme la vie est autre à Paris qu'en province.
Voilà mon ami, il faudra vous déprovincialiser ici.
Fly me to the moon and let me play amongst the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
On parlait de troupes, Stanislas Nordet, Raoul Fernandez qui joue le rôle du tenancier de cet hôtel du Libre-Échange, c'est un vieux complice, hein, ça fait 30 ans, vous êtes un homme de fidélité.
Absolument, et puis Raoul est costumier, c'est lui aussi qui signe les costumes.
Un peu absurde, hein, quand vous parlez de Jarry tout à l'heure, cette robe en forme d'abat-jour, ou alors ces costumes à plumes ou à poils, je ne sais pas trop, genre Yeti, c'est improbable. Un
oui.
peu surréaliste.
Bah, encore une fois, Jarry, quoi. C'est-à-dire que quand on a travaillé sur l'imaginaire qu'on pouvait poser, on s'est demandé qu'est-ce que c'est que cette époque, entre 1900 et 1920, qu'est-ce qui arrive. La robe abat-jour, c'est une robe de Paul Poiret, c'était un grand couturier de l'époque. Il y avait une question sur l'avant-garde aussi. Et je pense qu'on est parti aussi sur ce truc, que la grande bourgeoisie, c'est quoi, que ce soit en 1910 ou en 2010, c'est des gens qui aiment l'art contemporain, qui vont comme ça dans les extrêmes. Donc, on a nourri aussi l'imaginaire de cet imaginaire d'une certaine bourgeoisie.
Alors ça, c'est pour les costumes. Il faut dire aussi quand même deux mots du décor, parce qu'il est assez étonnant, il est assez conceptuel. Il n'y a pas de petites choses un peu bourgeoises avec... Il doit y avoir un ou deux guéridons, mais enfin...
À peine.
C'est surtout du texte. Les murs sont tapissés de texte.
Bah parce qu'une des particularités de Feydeau, c'était une maniaquerie incroyable aussi sur le détail. Donc, on a voulu projeter ça. Et encore une fois, au début, quand on se dit comment est-ce qu'on peut proposer Feydeau au public, je pense que mon idée, en tout cas, c'est qu'il faut perdre un peu le public, c'est-à-dire lui enlever ses repères. Donc, enlever tout le côté rococo, robe à panier, etc. Et réouvrir l'imaginaire pour que le public puisse entendre un peu différemment ce qui se dit. Donc, on a vraiment travaillé à ça, à nettoyer finalement, à nettoyer l'espace, à garder juste ce qui est nécessaire, c'est-à-dire
des portes. Il y a des portes. Il y a des portes.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'entrées et de sorties.
Beaucoup. Simplement dans le deuxième acte, 197 entrées et sorties. Voilà, il y a un universitaire un peu fou qui les a comptées, les entrées et sorties.
C'est dingue.
C'est dingue. Et donc, il faut des portes. Il faut des portes. Et puis, ça suffit presque. Donc, on a travaillé avec Emmanuel Cleu sur la scénographie, sur voilà, l'essentiel. Comment est-ce qu'on garde l'essence de ce qu'il faut ? Ce n'est pas une adaptation noire, décalée. On est vraiment sur le texte. Toutes les situations sont jouées. Mais simplement, c'est comment on... Je ne sais pas comment dire. Oui, on nettoie, on remet à plat.
Et ce qui est écrit sur les murs, c'est en fait la première didascalie de l'hôtel du libre-échange. On peut s'amuser à lire, mais ce n'est pas très, très lisible hein, quand
non,
même. Mais on voit bien qu'il y a des mots. Est-ce que les mots, c'est la quintessence du théâtre de Feydeau ?
Oui, moi je pense. Je pense d'ailleurs que Feydeau est dans la Pléiade, c'est pas pour rien. C'est-à-dire c'est un des rares porteurs de ce qu'on a appelé le vaudeville, mais plus largement la comédie qui est resté littérairement, je dirais. Et c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il y a un souci de l'écriture. D'ailleurs, ce que j'aime, c'est que le public rit en voyant le spectacle et il rit au texte. Hein. C'est le texte, c'est la formule, c'est la façon dont il pointe. Comme quand on joue à la pétanque, là, qu'on pointe, il pointe quelque chose à chaque fois. Et c'est, à mon sens, fait avec beaucoup de finesse et d'intelligence. C'est pas du gros rouge qui tâche. Hein, on manque aujourd'hui, d'ailleurs, je trouve, d'écrivains ou d'écrivaines qui s'attaquent à cette question, alors du vaudeville, j'en sais rien, mais de la comédie, du rire, de la narration à cet endroit-là. Et Feydeau est presque le dernier. Le boulevard aujourd'hui, je vais en voir de temps en temps, il n'est pas si bien écrit que ça, finalement.
Mais vous le qualifieriez de quoi, le rire de Feydeau ? Il est caractérisé par quoi ?
C'est, encore une fois, je ne pense pas qu'il cherche avant tout à faire rire, il cherche à faire entendre des situations et après, il ajoute, il saupoudre de personnages qui ont souvent des troubles du langage, par exemple. Hein. C'est-à-dire, là, il y a ce personnage improbable de Mathieu qui bégaye quand il pleut, qui devient muet quand il y a de l'orage et qui parle tout à fait normalement quand il fait beau. Donc ça, c'est des inventions dingues qu'il y a dans toutes les pièces de Feydeau. Il essaye de déstructurer la langue aussi. Enfin, moi, je trouve vraiment que parfois, l'histoire, on va dire, quand elle va un peu rapidement, littéraire, ne lui rend pas assez justice pour ce qu'il tente d'inventer.
Mathieu, c'est cet ami de province qui arrive...
Valenciennes.
De Valenciennes, qui arrive, je crois, au deuxième acte ou
à
la fin du premier acte, qui va loger à l'hôtel du libre-échange, qui voit tout, il pourrait donc tout révéler, mais comme vous l'avez dit, il bégaye.
Si vous ne nous avez pas vus, vous en avez vu d'autres.
Certainement, j'en ai vu d'autres.
Mais qui ? Qui ?
Bah, ça n'est pas difficile à dire.
Nous sommes fermés.
Et non pas anglais. Il me demande qui j'ai vu.
Oui, j'entends.
Vous voulez savoir qui j'ai vu ? Oui, non, ne me tirez pas mon paletot. Eh bien, j'ai vu... Le pote.
Enfin, qu'est-ce qui vous prend ? Oh, il bégaye !
C'est la pluie ? Merci ! Mon Dieu !
Eh bien, voyons, monsieur, répondez. Qui avez-vous vu ?
Oui. Le pote ! Tel du libre ! Change !
Eh bien, allez, monsieur, allez !
Oh, Dieu bon ! Il n'a jamais autant bégayé !
Enfin, voyons, Mathieu, vous le faites exprès ! Parlez !
Stanislas Orny, vous dites que vous ne riez pas en travaillant cette pièce, l'Hôtel du Libre-Échange, mais là, en écoutant l'extrait, vous riez.
Ah oui, parce qu'on a bien travaillé. Au bout du compte, voilà. Non, c'est dans le processus de répétition que le temps que les choses arrivent, que tout soit juste, bah, tant que c'est pas juste, c'est pas drôle. Et c'est, en même temps, c'est très passionnant parce que ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à travailler. Il faut jamais oublier aussi que les acteurs aujourd'hui n'ont pas l'habitude de jouer ce type de répertoire. À l'époque, qui jouait le vaudeville, c'était les acteurs du vaudeville qui étaient très, très entraînés à ça. Donc aujourd'hui, quand on travaille avec... Et là, je suis avec une formidable équipe d'acteurs. Le temps qu'ils trouvent le truc en répétition, le geste juste, le débit juste, etc., il y a du temps. Donc, là, aujourd'hui, quand je regarde le spectacle, je ris, oui.
Alors, c'est vrai que l'énergie du théâtre de Feydeau vient des mots, vous l'avez dit, du langage. Et ce n'est pas si étonnant, finalement, que vous ayez choisi cet auteur-là pour votre retour en tant que metteur en scène indépendant, puisque vous venez de quitter le Théâtre National de Strasbourg, et c'est votre première mise en scène en tant que metteur en scène seul, libre, je ne sais pas comment...
Freelance,
voilà, en français dans le texte. Mmh. Parce que finalement, les mots, c'est votre engagement, c'est votre passion de tout temps, non ?
Oui, bah, j'aime la poésie, la parole, la littérature. Voilà, pour moi, c'est... Oui, je travaille en ce moment avec des étudiants sur votre nouvelle sur le théâtre de parole de Pasolini. Il a écrit un manifeste pour un nouveau théâtre qui s'appelle le théâtre de parole, qui définit bien ce que j'aime. C'est magnifique, la parole, c'est-à-dire le langage, qu'est-ce qu'il y a de plus dingue que le langage et surtout comment on le décline, c'est-à-dire que moi, ce qui me passionne, et ce qui fait que peut-être je ferai comme Dalida et je mourrai sur scène, c'est que on n'en voit jamais la fin du langage et des différentes déclinaisons du langage.
Mais le langage sur scène, c'est pas le langage de la vie quand même.
Non.
Et vous ne jouez jamais réaliste, je mets des guillemets.
Bah, c'est aussi pour ça que le cinéma m'a toujours moins intéressé, à la fois, je suis spectateur de cinéma, mais en faire, alors que voilà, mon père était cinéaste et tout ça. Du coup, le cinéma, c'est le langage du réel. Et au théâtre, y a autre chose qui arrive. On est plus proche de la poésie, finalement, du geste poétique, le théâtre. Depuis la naissance du théâtre, depuis Eschyle, ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe aussi parce que la parole au théâtre est proférée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas chuchotée. Alors, oui, dans ce spectacle aussi, j'ai tenu à ce qu'il n'y ait pas de micro à chef. Les acteurs, ils sont plein pot. Aujourd'hui, au théâtre, voilà, ça, par exemple, parfois, ça me rend malheureux quand on me met un micro à chef, que je suis acteur sur le spectacle de quelqu'un d'autre, parce que pour moi, le théâtre, ça se profère. C'est physique. C'est une chose athlétique, un geste athlétique.
Oui, c'est le lien avec la tragédie antique, peut-être.
Ouais, ouais.
Vous avez travaillé avec Vassiliev, qui est un grand metteur en scène russe et qui, exactement, dans cette logique d'un théâtre énoncé, tout à fait hors des codes de la conversation et du réalisme quotidien. C'est donc votre première mise en scène, Stanislas Lordé, depuis votre départ du Théâtre National de Strasbourg. Vous revenez en compagnie. C'est le sentiment d'une liberté retrouvée ou d'une inquiétude ou...
J'ai adoré diriger pendant presque 10 ans le Théâtre National de Strasbourg et son école. C'est épuisant. De diriger des théâtres, c'est passionnant et épuisant. Donc là, j'ai un sentiment de liberté. J'ai des ailes. Je peux voler enfin d'aventure en aventure, non pas d'angoisse du tout, juste du plaisir.
Et puis l'aventure continue puisque vous allez prendre la direction d'une nouvelle, d'une maison d'édition qui s'appelle Espace 34 et vous êtes arrivé d'ailleurs dans ce studio avec le livre d'un auteur camerounais, Suffo sous le bras.
Ben oui, voilà, c'est la vie aussi qui vous emmène. J'étais un peu, en même temps, orphelin d'avoir un projet, je sais pas quoi, qui me construit. Voilà, donc quand Sabine Chevalier, qui a magnifiquement créé et porté Édition Espace 34, m'a dit qu'elle passait la main, je me suis proposé pour aussi être dans une aventure inquiétante parce que nouvelle et passionnante parce qu'au cœur de ce que j'aime, encore une fois, lire... Et transmettre, faire passer les auteurs et les autrices. Donc Sabine est là jusqu'au début du mois de juillet. Et puis après, je prendrai courageusement et modestement sa suite.
Merci Stanislas Lordé. L'Hôtel du Libre-Échange se joue au Théâtre National de l'Odéon jusqu'au 13 juin. Et puis en tournée l'année prochaine. Et pour en savoir plus sur vos engagements et votre parcours, parce que finalement cette émission est très courte, un livre d'entretien avec Frédéric Vosier intitulé « Locataire de la parole 2 » publié au Solitaire Intempestif. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo et Yasmine Boulan, Laura Pinto à la réalisation. Vous pouvez bien évidemment nous écouter sur le site rfi.fr, sur la page Facebook de l'émission et sur l'application l'application Pure Radio, à force, vous la connaissez. Bonne journée.